Donc, je vais laisser les deux intervenir pour juste nous donner un petit point sur les paroles qui ont été reçues à l'intercession ce matin.
Pensée que le Seigneur donnait ce matin, c'était en fait une image d'une falaise où il y avait vraiment beaucoup d'eau. Et en fait, il y avait des personnes qui étaient alignées et qui étaient spectatrices de la falaise. Et en fait, le Seigneur, il disait en fait qu'il est rempli de plénitude. Et en fait, la falaise d'eau représentait la plénitude de Dieu, dont l'amour de Dieu, la paix de Dieu, le repos de Dieu, la joie de Dieu. Et en fait, le cœur de Dieu, c'était de ne pas être spectateur, mais d'aller en fait s'abreuver à cette source pour pouvoir être rempli de ce que le Seigneur donne. Et il y avait aussi une pensée par rapport à l'amour, et je vous laisse aller regarder, c'est dans Romains 5:5 qui dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Alors ce matin, la pensée que j'ai reçue de la part de Dieu, c'est pour la semaine de jeûne et prière. Je voyais l'image d'un homme qui avait un flacon de parfum, qui versait les parfums par terre. Et le Seigneur, ce qui m'aimait à cœur, il veut déverser son parfum de bonne odeur sur chaque vie. Et le Seigneur vous invite vraiment, durant ces temps de jeûne et prière, de venir vers lui avec un cœur sincère, vous ouvrir dans sa plénitude, et il fera des grandes choses dans vos vies. Il veut restaurer des vies, il veut transformer des vies, mais rendez-vous disponible et soyez renouvelés dans la présence de Dieu. Comme Alexis l'a déjà si bien dit, le Seigneur veut révéler quelque chose. Tu peux mettre ton nom à la place d'Abraham, tu veux dire le Seigneur veut révéler quelque chose à Rebecca, à Christiane, à Alexis, le Seigneur veut te parler, il veut te visiter, il veut transformer ta vie. Soyez disposés durant ces temps-là. Soyez bénis. Amen.
Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ces quelques paroles. Merci. Alors, est-ce qu'on peut projeter tout de suite Néhémie chapitre 1, du verset 1 au verset 4, s'il vous plaît? Merci à toi, Timothée. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Seigneur, merci pour cette parole ce matin. Nous voulons parler de toi, Jésus, de ce que tu es, Seigneur, de ce que tu fais. Nous voulons parler de ta présence glorieuse, de ton amour, comme elle a été rappelée ce matin, Seigneur, de ce que tu es présent dans nos vies, de ce que tu as un projet pour nous, Seigneur, de ce que tu veux nous mener vers une destination que tu connais, Seigneur, que nous ne connaissons pas, mais nous te faisons confiance et nous voulons nous laisser conduire dans la direction que tu as choisie pour nous ce matin encore au nom de Jésus. Merci de me revêtir de ton esprit, de ton onction, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci d'ouvrir les cœurs que ce matin nous recevons comme un appel, comme une invitation, Seigneur, ta parole au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen.
Amen.
Voilà, la semaine prochaine, on a un moment de jeûne-prière. Et puis, pendant que je préparais cette prédication, le Seigneur m'a donné ce verset-là. Et l'histoire de Néhémie, on va en tirer quelques versets. J'avais prévu qu'on lise un peu quelques passages. On verra, parce que le temps est court. On verra si on peut lire pour quand même comprendre le contexte. Donc ici, on a Néhémie qui est, et on le verra tout à l'heure, il est au service du roi. Et puis voilà qu'il y a eu une déportation par rapport à Jérusalem, et il y a quelques personnes qui sont restées à Jérusalem. Et il a eu quelques nouvelles de la part d'un frère, et qui lui dit que voilà, les murailles de Jérusalem sont complètement détruites, et le peuple là-bas est dans la désolation, donc dans les pleurs, dans les cris, dans la tristesse. Et Néhémie, entendant cela, donc le prophète Néhémie, il se met à pleurer, triste pour son peuple, triste pour lui-même, et il se met à jeûner et à crier à Dieu. On ne va pas lire ce qu'il a dit dans sa prière. On va passer au verset 11 de toujours le chapitre 1. Le verset 11. Il dit, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Donc, Néhémie, quand il entend cette nouvelle, il a le projet, il a la vision d'aller rebâtir cette muraille. Et il dit, fais-moi trouver grâce auprès de cet homme, donc auprès du roi dont il était au service. Nous allons passer au chapitre 2 de Néhémie. Néhémie, chapitre 2, du verset 1 au verset 6. Néhémie, chapitre 2, du verset 1 au verset 6. Alors, je vais essayer de prendre ma Bible. Donc, Néhémie, chapitre 2, verset 1, verset 6. Ah, ok. Merci, Timothée. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerces, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Continuons. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un. Ici, ce que je veux attirer votre attention, c'est sur ce Néhémie qui a ce projet. Et on voit qu'à chaque fois, ici par exemple, et dans le chapitre 1, il remet toujours son projet entre les mains du Seigneur. Pendant que le roi lui pose la question, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu de moi ?» La Bible dit qu'il prie d'abord, avant de répondre au roi. Et pourtant, il sait ce qu'il veut. Et pourtant, il a son projet dans le cœur. Lorsqu'il priait et lorsqu'il jeûnait, il avait déjà fait la demande à Dieu. Et il avait déjà dit au Seigneur, fais-moi trouver grâce auprès du roi. Donc il savait très bien ce qu'il faisait, et il avait déjà prié. Mais le moment où il est devant le roi, et que le roi lui pose la question de savoir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Néhémie se met encore à prier. Et donc vraiment, aujourd'hui, et on verra tout à l'heure, il y a deux choses que nous faisons. Nous avons la prière. C'est un temps important dans tout ce que nous faisons. Et c'est un peu en lien avec la prédication d'Alexis la semaine dernière, toujours avoir la présence de Dieu en nous partout où nous sommes, et dans chaque situation, dans chaque occasion. Même si on a prié le matin, même si en se réveillant on a eu un temps de prière, un temps de méditation, mais lorsqu'on se lève et que nous vaquons à nos occupations, lorsque nous sommes devant les situations, il faut toujours prier avant de prendre une décision. Même si on a eu un temps personnel de louange, d'adoration le matin en se levant. Et on parle même de ça par rapport au dimanche. Même si le dimanche, tu as eu un bon moment de louange, d'adoration, de prière, et même tu as senti la présence de Dieu, une sorte de délivrance. Mais la semaine, quand tu vas vivre ta semaine, est toujours la connexion avec le Saint-Esprit. À chaque instant, pense toujours à Dieu. Dans toutes tes décisions, mets-toi devant la face de Dieu. Avant de dire, avant de penser, avant de parler, pense à l'Éternel. Moi, par exemple, à chaque fois que l'un de vous vient me voir pour me poser une question, « Oh, Wilfried, qu'est-ce que tu penses de ceci, de cela ?» Pendant que tu parles, moi, je suis en train de prier dans ma tête et de dire, « Seigneur, qu'est-ce que je veux lui dire ?» Je ne me dis pas, j'ai de la sagesse, j'ai de l'intelligence, j'ai le Saint-Esprit. Dis-moi quel est ton problème, je te donnerai la solution. Je me réfère toujours d'abord à Dieu. je prends un temps avant de te répondre. Pendant que tu parles et que je te donne une réponse tout de suite, tu as peut-être l'impression que la réponse m'est venue tout de suite, mais en fait, j'étais dans un temps de prière dans ma tête pendant que toi, tu étais en train de parler. Pendant que tu m'exposais ta situation, moi, je priais. Pendant que tu m'exposais ton problème, moi, je priais. Mais quand tu me regardes, tu ne te rends pas compte que je suis en train de prier. Parce que je suis en même temps attentif à ce que tu me dis. Mais en même temps, dans ma tête, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux répondre à ton fils, à ta fille qui vient me voir, qui a un problème? Je prie que tu me donnes une parole pour elle. Je prie que tu me donnes une parole pour lui. Il y a certains d'entre vous qui m'appellent, et pas que moi, le pasteur Alexis et chaque responsable, pendant la semaine. On passe des temps de prière, même au téléphone, on passe des temps d'exhortation, même au téléphone. Mais on prend toujours un temps de prière. Et même pendant que nous sommes avec la personne au téléphone, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? Pas moi, mais qu'est-ce que toi tu veux lui transmettre? Et c'est pareil lorsque nous venons pour prêcher. On ne prêche pas parce qu'on a préparé une prédication durant des semaines, des mois, et puis on s'est dit, voilà, ça c'est bien pour eux. Mais on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas leur dire? Parce que c'est ton peuple. Ils ne viennent pas pour me voir, ils viennent pour te voir. Ils viennent pour t'écouter. Ils espèrent une révélation. Ils espèrent que tu vas leur parler. Ils espèrent que tu vas donner une solution à une situation qu'ils passent aujourd'hui et maintenant dans leur vie. Donc, Seigneur, éclaire-moi. Et l'ennemi, pendant qu'il parle au roi et que le roi lui dit, que veux-tu que je fasse? Il prie encore. Encore. Priez sans cesse. Moi, ce matin, je vais déjà vous exhorter à ça. Priez sans cesse. Dans toutes les situations que vous vivez, priez sans cesse. Même si vous avez prié un instant avant, même si vous avez prié déjà le matin, même si vous avez prié déjà l'heure avant, avant d'ouvrir votre bouche, priez encore. Parce que Dieu peut vous donner une parole à laquelle vous n'avez même pas pensé. Dieu peut vous ouvrir l'intelligence dans une situation à laquelle vous n'avez même pas pensé. Parce que c'est à l'instant même que Dieu vous donnera la révélation de ce dont vous avez besoin. Nous allons continuer, Timothée, s'il te plaît. Nous allons passer au chapitre 4, verset 1 à verset 23. On va lire, ce sera un peu long, mais j'aimerais bien lire ça parce qu'il y a un contexte derrière. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Donc voilà que il y a un projet, il y a une vision, mais en tant qu'enfant de Dieu, à chaque fois qu'on se lève pour bâtir un projet avec la grâce de Dieu, il y a toujours un ennemi qui se lève à côté pour combattre une vision, pour combattre un projet. Là, on a mis ensemble un moment de jeûne et prière avec le prophète dans le lit. Voilà que certains peut-être ne viendront pas. Vous penserez peut-être que je suis fatigué, je ne me sens pas bien, et bien bon, je vais rester chez moi, je vais me reposer un peu. Mais l'ennemi peut souffler des pensées. Reste chez toi, dors sur la télé, sur Netflix. Et moi, je t'invite ce matin, et c'est vraiment aussi l'objectif, ma prédication. Je t'invite ce matin pour te dire, la semaine prochaine, organise-toi, sois là. Amen. Lundi, plutôt mardi et mercredi, sois là, présent. Jeûne et prie. Si ta santé te le permet, jeûne et prie. Amen. Lorsque Néhémie a su que la muraille de Jérusalem était détruite, il a pleuré et il a jeûné et il a prié. Et on a mis en place un jeûne et prière la semaine prochaine. Je t'invite, jeûne et prie. Amen. Quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Jeûne et prie. Amen. Ne te dis pas c'est difficile, c'est dur. Peut-être c'est difficile, peut-être tu n'as pas l'habitude. Le Seigneur te soutiendra. Amen. Et organise-toi dans ton quotidien pour pouvoir passer ton jeûne et prière en bonne santé. Amen. Et la Bible dit que lorsque vous priez, parfumez-vous. Amen. Soyez propre, élégant, comme chaque jour dans votre vie. Amen. Ce n'est pas le moment de se sentir triste et puis on te voit à l'église. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Vraiment, je jeûne, c'est dur. Oui, c'est dur pour tout le monde. Essaie de garder la tête haute pendant le jeûne de la prière. Le combat, il est aussi là, il est physique. Mais prends cette décision, engage-toi. Seigneur, je veux jeûner et prier, accompagne-moi, aide-moi. Si j'ai du mal avec la nourriture et de l'eau, parce que chacun fera le jeûne dont il sera capable, je choisis le jeûne que je peux faire. Je ne vais pas au-delà de mes limites. Je fais selon la force que l'Éternel m'a donnée. Donc c'est une invitation ce matin. Engagez-vous dans le jeûne et prière de la semaine prochaine. Je suis persuadé, j'en suis convaincu, Dieu va faire quelque chose dans la vie de ceux qui vont s'engager la semaine prochaine en jeûne et prière. C'était confirmé ce matin par les paroles qu'on a entendues en intercession. Dieu déverse une onction, Dieu déverse une grâce sur chacun de nous qui allons nous engager. Et comme encore a dit Alexis, cacherai-je à Abraham ce que j'ai prévu faire? Si tu te mets en jeûne et prière, Dieu va te révéler ce qu'il a prévu faire.
Amen.
Tu cherches sa face, tu cries, tu pleures, tu jeûnes, tu pries. Dieu va se révéler. Mais si tu te dis, oh, je veux manger, je veux dormir, Seigneur, t'aime, tu sais. Oui, Dieu sait, mais il sait aussi que tu peux le faire. Rien n'est facile dans la vie. Jésus n'est pas allé à la croix avec le sourire. On ne va pas jeûner avec le sourire parce que c'est dur. Lorsque les clous sont rentrés dans le corps du Christ, c'était dur. Lorsque la couronne d'épines a été posée sur sa tête, c'était dur. Et tu dois t'engager comme le Christ s'est engagé pour ta vie. Et le jeûne et prière, ce ne sera pas pour Dieu, c'est pour toi. Que le Seigneur fera des miracles, des prodiges, et te libérera, te donnera des révélations. Alors je t'invite, continuons s'il vous plaît. Néhémie chapitre 4, verset 1, verset 23. Donc, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Vous voyez, ils ont l'objectif de construire, les ennemis viennent et veulent les décourager. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? C'est dans la vie, tu peux avoir un projet qui est déjà, dès le départ, ça ne marche pas, ça ne va pas. Un projet déjà compliqué, difficile. Peut-être un projet d'entrepreneuriat, peut-être un projet de famille, peut-être un projet de mariage, on ne sait. Mais un projet qui est compliqué. Et les ennemis te regardent et diront, laisserons-nous faire cela? Non, on va se lever contre lui. Parce qu'il veut rebâtir. Parce qu'il veut construire sa vie. Parce qu'il veut avancer. Non, on va se lever. On va se mettre en obstacle contre lui. Pour ne pas qu'il puisse atteindre son objectif. Ça peut être un projet de formation, de scolarité. Tu veux reprendre ta vie en main. Tu te dis, ça fait longtemps. Je décide de me lever. Je décide de faire ce projet-là. Je décide de me former. Je décide d'ouvrir une entreprise. Je décide de me marier. J'ai été trop longtemps célibataire, Seigneur. Mais voilà que les ennemis se lèvent aussi et se disent, ah non, ce projet-là, on va le combattre. On ne laissera pas faire. Et ce qui se passe, ils veulent reconstruire une muraille qui a été brisée. Mais les ennemis se lèvent. On peut remettre le verset, s'il te plaît, Timothée. Quand tu allais lire. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs? Donc on a déjà lu tout ça, consumé par le feu. On peut continuer, merci. Tobija, l'Ammonite, était à côté de lui. Il dit, merci beaucoup, pasteur Alexis, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Continuons. Écoute, et là maintenant il prie, vous voyez, leurs ennemis ont commencé à faire des projets, à vouloir se lever contre eux, à vouloir venir leur donner peut-être des mauvais conseils, peut-être leur mettre sur des faux chemins, peut-être leur dire que non, tu sais, ce sera dur. Ah, c'est compliqué ton projet là, laisse tomber, tu vas perdre du temps, fais autre chose. Ah, tu sais ce que tu as envie de faire là, moi je pense que ça ne vient pas de Dieu. Mais pourtant, tu es convaincu que le Seigneur t'a dit, fais ce projet là. Tu as toujours des mauvais conseillers. Gens qui te disent que la formation que tu veux faire là, je crois qu'avec toi, ça ne va pas.
Amen.
Toi, va dans ton cœur, va dans ton intimité avec ton Dieu, ton Père qui t'a appelé. Il connaît la direction qu'il a choisie pour toi. Écoute le conseil de Dieu et des hommes de Dieu. Et donc il prie, écoute, ô Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-leur au pillage sur une terre où ils soient captifs. Continuons. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Sois un bâtisseur, mon frère. Je ne sais pas si on dit « sois une bâtisseuse, ma sœur ». Mais sois-le. Il faut bâtir ta vie.
Amen.
On cherche des bâtisseurs.
Amen.
Le Seigneur t'a appelé à bâtir quelque chose dans ta vie. Ne pas être spectateur de ta propre vie, mais être un acteur.
Amen.
Et comme on dit toujours ici, on travaille avec Dieu.
Amen.
Avec Dieu.
Amen.
Et Néhémie, comme on l'a lu, avant de commencer son projet, il a fait appel à celui avec qui il voulait travailler. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Celui à qui rien n'est impossible. Continuons, merci. Élie, c'est la suite de l'histoire. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Malgré les adversaires, malgré les ennemis, ils sont restés à l'ouvrage. Malgré les complications, malgré les obstacles, ils ne se sont pas découragés, ils ont persévéré jusqu'à arriver à la moitié de la construction. Et on dit que le peuple prit à cœur l'ouvrage. Bien-aimés, la semaine prochaine, c'est le jour des prières. Prends à cœur cet ouvrage. Prends à cœur ce que Dieu a institué dans l'église où tu es.
Amen.
Et viens jeûner et prier. Prends à cœur cet appel à la prière.
Amen.
Appel au jeûne. Prends ça à cœur. Continuons. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Anodiens furent très irrités en apprenant que la réparation du mur avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Mais dans ta vie, quand tu commences à avancer dans tes projets, et que les gens voient que, ah, oh, lui-là, il progresse, il y en a qui sont jaloux de toi. Il y en a qui sont jaloux quand ils te voient avancer. Ça peut parfois être des proches jaloux. Parce que tes projets commencent à prendre forme. Tu commences à voir la bénédiction de l'Éternel tomber. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Quelque chose est en mouvement dans ta vie. Et même quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, que tu commences à dire, ça je ne veux plus faire, ce type d'amis, je ne veux plus les fréquenter, c'est là où tu les vois revenir vers toi. Et tu dis, mais on ne te voit plus dans nos soirées. On ne te voit plus quand on va draguer des filles, tu n'es plus avec nous. On ne te voit plus quand on va s'enivrer, tu n'es plus avec nous. Oui, parce que toi, ta vie a commencé à avancer dans une autre direction. Mais eux, ils veulent toujours te tirer vers le bas. Mais sépare-toi de ceux qui te tirent vers le bas. N'écoute pas leurs conseils. Tu as commencé à bâtir peut-être. Tu es déjà la moitié de ce que tu es en train de faire. Continue. Le Seigneur est avec toi. Même si c'est dur, il y en a qui commencent un projet, en plein milieu, ils les arrêtent. Parce que c'est difficile, parce qu'il y a des obstacles, parce que c'est compliqué. Mais quand tu as commencé un projet, va jusqu'au bout. Le Seigneur sera ta force.
Amen.
Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Continuons. Nous priâmes notre Dieu. Oui, il y a toujours la prière. Toujours. Difficulté, prière. Difficulté, prière. On ne réfléchit pas. Réfléchis pas. On prie.
Amen.
Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Une garde jour et nuit. Priez sans cesse. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Continuons. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. L'objectif, c'est que ce que tu fais s'arrête dans ta vie. La bénédiction que Dieu te donne, que tu ne puisses pas en profiter. Là, c'est l'objectif de l'ennemi. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, quand tu restes connecté à Dieu, l'Esprit de Dieu te fait connaître les projets de tes ennemis et de tes adversaires. Quand tu restes connecté à Dieu, l'Esprit de Dieu t'avertit des mauvaises décisions que tu veux prendre. Quand tu restes connecté à Dieu et tu fais une erreur, Dieu, il te remet dans le bon chemin. Il ne te laissera pas t'enfoncer dans l'erreur. Comme a dit David, il étendit sa main et me saisit les grandes. Continuons. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Continuons. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit au grand magistrat et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous de qui ? Souvenez-vous du Seigneur. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur. Quand tu es devant la difficulté, ne crains pas la difficulté. Souviens-toi du Seigneur. Quand tu es dans l'épreuve, ne crains pas l'épreuve. Souviens-toi du Seigneur. Quand la tristesse commence à remplir ton cœur parce que ton projet n'avance pas, souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi, souvenez-vous du Seigneur. Quel Seigneur ? Grand et redoutable. Grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos fils, vos familles, pour vos femmes et pour vos maisons. Bien-aimé, quand tu combats dans ton projet, tu ne combats pas que pour toi. Tu seras une bénédiction pour ta famille. Quand ton projet va réussir, tu vas bénir autour de toi. Tu vas bénir ta famille. Tu vas bénir l'Église. Pour ceux qui ont les enfants, ce sera une bénédiction pour leurs enfants. Ce que nous bâtissons est pour nous, mais ça rayonne toujours autour de nous. Et ça bénit toujours ceux qui sont autour de nous. Donc quand tu es engagé dans un projet avec Dieu, sache que Dieu fait ce projet, pas que pour toi, mais parce que d'autres personnes vont profiter de la bénédiction que le Seigneur a prévue pour toi. Ça peut être ta famille, tes enfants, tes amis, ton quartier, ta ville. Tu es une source de bénédiction. Amen. Tu es une lumière qui rayonne. Amen. Mais il faut que la lumière brille. Amen. Il faut que la bénédiction se manifeste. Et pour ça, tu as ta part. Dieu a la sienne et nous avons la nôtre. Amen. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu fit quoi ? Dieu anéantit leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Continuons. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers d'arc et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Continuons. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou changeaient les fardeaux travaillaient, et là je m'arrête un instant, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Le sujet de ma prédication ce matin, c'est l'outil dans une main, l'épée dans une autre. L'outil dans une main, l'épée dans une autre. Ça veut dire que pendant que tu travailles, pendant que tu fais ton projet c'est l'outil. L'épée, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur, c'est la prière. Tu ne peux pas seulement être à travailler, c'est-à-dire à faire tout de manière charnelle. Il y a toujours l'outil et l'épée. L'outil, c'est ton projet, l'épée, c'est le Seigneur, qui est toujours là pour te délivrer, qui est toujours là pour t'accompagner et qui est là pour te faire réussir. Mais tu ne peux pas que travailler et oublier la part que Dieu a dans ton travail. Tu ne peux pas avoir seulement un projet et ne pas toujours te référer au Seigneur dans ce projet-là. Mais tu dois avoir les deux. Tu dois te mettre en œuvre, travailler, t'efforcer, et tu dois toujours te référer à celui qui fait réussir les projets. À celui qui est capable de détourner tes adversaires. À celui qui est capable de te donner la victoire dans ton projet. À celui qui est capable de te faire réussir alors que tu t'es peut-être voué à l'échec. L'outil dans une main et l'épée dans l'autre. Le travail et la prière. Le travail et le jeûne. Le travail et la méditation de la parole. Quand je parle du travail, je parle du fait de faire ton service, de faire ton activité. Par exemple, tu cherches du travail, eh bien, le travail, c'est de faire ton CV. Tu cherches du travail, le travail, c'est de commencer à aller dans d'autres entreprises. Si tu veux faire un projet, travailler, c'est commencer à aller te renseigner. Peut-être prendre des organismes, contacter des organismes. C'est te mettre à l'œuvre pour le projet. Mettre en œuvre ton corps à l'œuvre. Mettre ton intelligence à l'œuvre. Et la prière. Mais ne te mets pas seulement à réfléchir, à penser et à compter sur tes contacts, sur ton réseau. Compte d'abord sur le Seigneur. Et mets les deux ensemble. Tu travailles à ce que tu as à faire et tu mets, associe Dieu dans ce que tu fais. Au quotidien. Et je dis bien au quotidien, à chaque instant, à chaque pas de ton projet. Tu es dynamique, tu es déterminé, tu es volontaire et tu as le Seigneur. Les deux ensemble. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je pense que c'est tout pour ça. On va terminer avec Exode, chapitre 17, le verset 8 au verset 15. Exode 17. Ici, on est dans un autre contexte, de l'Ancien Testament toujours, et on a un combat entre les enfants de Dieu et puis Amalek. La Bible déclare, Amalek veut combattre qui ? Israël à Réphidim. Continuons. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, Josué était le chef de l'armée de l'Éternel, le commandant. Moïse était l'homme de Dieu. On va voir ici qu'ils vont travailler en binôme. Moïse va travailler de sa manière, Josué va travailler de sa manière, mais les deux pour le même combat. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, c'est-à-dire des gens courageux. » On n'a pas exclu les femmes. Des gens courageux. Donc une femme courageuse qui est capable de se lever, de travailler. Capable de se dire, j'ai un projet, j'avance, je fonce. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, moi, Moïse, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Continuons. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Savez-nous, dans plusieurs églises africaines, parfois quelqu'un il est en jeûne et prière, tu le vois là et tu lui dis, tu n'avais chez toi à manger. Il te dit, non, non, je ne mange pas, c'est bon. Et tu lui demandes, ah quoi, tu es sur la montagne? C'est une expression qu'on emploie souvent pour dire qu'il est en jeûne et prière. Il est sur la montagne. Les églises que j'ai fréquentées ou les gens que je connais, c'est l'expression qui est employée. Je suis sur la montagne. Et on comprend tout de suite qu'il est en jeûne et en prière. Donc, Josué fit ce que lui avait dit. Enfin, oh, viens s'il te plaît, merci. Josué fit ce qu'il avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne, ou plutôt de la colline. Continuons. Lorsque Moïse élevait sa main, qu'est-ce qui se passait? Israël était le plus fort. Et lorsqu'il abaissait sa main, qu'est-ce qui se passait? Amalek était le plus fort. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Moïse était allé faire sur la montagne? Mais on comprend ce qu'il a été faire sur la montagne. Amalek n'était pas sur la montagne. Israël n'était pas sur la montagne. Mais comment ça se fait que ce que Moïse fait sur la montagne a un impact sur ce qui se passe sur le champ de bataille? Il y a un champ de bataille. Josué a pris des hommes forts. Il allait combattre Amalek dans la plaine. Moïse, il fait quoi? Il ne suit pas Josué sur le champ de bataille. Lui, il monte à la montagne. Déjà, géographiquement, ils sont séparés. Ils ne sont pas au même endroit. Moïse sur la montagne, Josué dans la plaine. Josué combat. Moïse, il a un autre combat. Mais pour le même combat. Contre Amalek. Et la Bible dit que ce que Moïse fait sur la montagne a un impact sur ce qui se passe sur le terrain. Quand tu jeûnes, tu pries, il y a un impact sur ta réalité. Quand tu jeûnes, tu pries, il y a un impact sur tes projets. Il y a un impact sur tes adversaires, il y a un impact sur tes ennemis. Tu ne le sais peut-être pas, tu ne le vois peut-être pas. Ce n'est pas fluide comme de l'eau de roche, mais je peux t'assurer que quand tu pries, quelque chose se passe dans ta vie.
Amen.
Quand tu jeûnes, quelque chose se passe dans ta vie.
Amen.
Et tu le verras s'accomplir, certainement. Prends les temps avec Dieu au sérieux. Prends les temps de jeûne et prière au sérieux. Lorsque Moïse priait pour le combat que Josué menait, lorsqu'il avait les mains élevées, ça veut dire lorsqu'il priait, la Bible déclare que Israël avait la victoire. Lorsqu'il avait les mains abaissées, donc quand il était fatigué, et on va même pouvoir dire, on va extendre, on va dire, il était peut-être découragé, quand il n'avait plus de force, Amalek, l'ennemi, était le plus fort. Dans nos vies, parfois les hauts et les bas que nous vivons, c'est parce que notre vie de prière, parfois elle est en haut, parfois elle est en bas. Je dis bien parfois, parce que Dieu a ses mystères. Nos défaites sont parfois dues au fait qu'on n'a pas persévéré dans la prière. Et nos victoires sont souvent dus au fait qu'on a persévéré dans la prière.
Amen, amen, amen.
Soyons au clair avec cette réalité spirituelle. En tant qu'enfants de Dieu, prenons au sérieux les temps de prière, les temps de jeûne.
Amen.
Déjà de manière individuelle, mais la Bible dit ici, Moïse n'est pas monté seul. Il est monté avec Hur et Aaron, deux autres, pour le soutenir dans la prière. Parce que la Bible déclare, et on va continuer, continuons s'il te plaît, les mains de Moïse étant fatiguées, c'est-à-dire que tu pries, tu pries, tu pries, tu es fatigué, tu n'arrives plus à prier. Et c'est là où ton ennemi prend le dessus sur toi. La Bible dit, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Maintenant, on voit l'importance de Aaron et Hur. La Bible dit, Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Continuons. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Pourquoi? Parce que Hur et Aaron ont soutenu Moïse et ses mains restèrent fermes jusqu'à la fin du combat. Tu as besoin qu'on te soutienne. Si tu es fatigué, tu as besoin d'être soutenu. Par des combattants, pas par les fatigués comme toi, par des combattants. Pas des gens qui vont te dire, ah, tu es fatigué, c'est pas grave, ça va aller. Non, J'ai des gens qui vont te dire, tu es fatigué, mon frère, viens, on va prier. C'est quoi ton sujet? Oh, depuis là, je prie, ça ne va pas. Ah bon? C'est quoi le sujet? Écoute, on pense ensemble, on va prier ensemble. Amen. Pas ceux qui viennent te consoler seulement, ah, ça va aller, Dieu est vivant. Oui, mais ceux qui veulent dire, c'est quoi le sujet, ma sœur? Si c'est des gens que tu reconnais, parce qu'il faut avoir le regard spirituel, on ne donne pas les sujets à tout le monde. Il faut avoir le discernement des esprits. Celui qui me voit pour me soutenir, c'est quelle est sa motivation? Est-ce que c'est le Seigneur qui l'a envoyé parce qu'effectivement je suis faible et donc il vient pour me soutenir? Eh bien, en fait, il veut seulement savoir quel est mon problème et il a commencé à en parler. Vous comprenez? Il faut savoir qui vient vous poser des questions. À qui dire quoi? Le discernement des esprits. Qui te parle? Pourquoi? Si ton pasteur Alexis vient te parler, tu sais que c'est parce qu'il veut que tu avances dans ta vie. Et qu'il va te soutenir. Discerne qui vient te voir et pourquoi il vient te voir. Mais tu as besoin d'aide. Seul, parfois c'est compliqué. Même Jésus, allant à Gethsémané, a pris deux personnes. Moïse, il va sur la montagne, il prend deux personnes. Toi, tu vas sur la montagne, tu vas seul. Tu t'es dit maintenant, je suis plus fort que Jésus et Moïse. Je suis capable seul de porter mes fardeaux. Mes problèmes, j'ai le Saint-Esprit, je connais l'Évangile, je les affronte tout seul. Et quand tu tombes, tu dis, oh Seigneur, tu ne m'as pas exaucé. Non, Dieu t'a dit, quand tu étais faible, va demander de l'aide. Tu as dit, non Seigneur, ça va aller. Et voilà que tu es resté dans le trou. Tu as besoin de deux personnes. Mais deux, c'est symbolique. Tu as besoin d'aide, tout simplement. Pour t'aider à t'en sortir. Le jeûne et la prière, on sera ensemble. L'Église prie. Quand l'Église prie, quelque chose se passe.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Quand l'Église prie,
quelque chose se passe.
Ah, j'ai pas entendu. Quand l'Église prie,
quelque chose se passe.
Quelque chose se passe. Amen. La semaine prochaine, quelque chose va se
passer.
Merci.